Je suis fier d'être noir. Si je revenais encore, je redeviendrais congolais. Merci Seigneur. Deux Rois chapitre 5, au premier verset. C'est l'histoire que nous connaissons tous, mais espérons par la grâce de Dieu que nous pourrons y tirer quelque chose. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché quand je méditais sur ça. Mais j'ai aussi entendu dans le partage de la parole toujours, vous apprenez beaucoup aussi. Hein. Naaman, le général en chef de l'armée du roi, au verset 1, de la Syrie, était un homme que son maître, je ne sais pas si c'est la même version, mais en tout cas, ok. Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa valeur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Par lui, un païen, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Benjamin Franklin, l'ancien président des États-Unis, qui a signé la déclaration de l'émancipation des esclaves, une fois a dit que plus je vis, plus je me rends compte que Dieu est au contrôle de tous les événements des nations. Un roi païen à qui Dieu donne la victoire. On dit il donna la victoire aux Syriens par Naaman. C'est-à-dire Dieu l'avait utilisé à une période, mais il ne le savait même pas. Il enflait d'orgueil, mais c'était Dieu qui lui avait donné la victoire. Et c'est cela, mes amis, je vais continuer, c'est cela, mes amis, qui doit nous interpeller à faire très attention quand on pense de Dieu. On ne doit pas limiter Dieu dans le carton de notre propre limitation. Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Les espions d'Israël, il a utilisé une prostituée arabe pour les protéger. Et à la fin, elle deviendra la grand-mère de Jésus-Christ. Il y a des gens que Dieu utilise. Toi, tu les as déjà oubliés. Pour toi, c'est une peine perdue. Alors qu'ils sont dans l'agenda de Dieu. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau, le rendant impur. Or, au cours d'une excursion dans le territoire d'Israël, des pillards syriens avaient enlevé une petite fille. Que quelqu'un dise à son voisin, une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. » Wow. Elle non seulement a été enlevée, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie quand on t'enlève par un groupe de pillards et tu es une jeune fille. On voit ce qui se passe à l'est du pays. On ne sait pas quel traumatisme elle avait enduré. Mais elle se retrouve esclave dans la maison de Naaman. Elle sert la femme de Naaman. Et elle observe pendant un temps que son maître n'est plus le même. Il n'est plus permis d'aller dans des expéditions militaires, parce qu'en fait, quand on attrapait la lèpre, on devait vous mettre en quarantaine, vous ne deviez pas être en contact avec tout le monde, parce que la lèpre n'était pas bien comprise à l'époque. Vous n'étiez même pas autorisé à entrer au temple, même à entrer dans la maison de quelqu'un. Et pire encore, en Israël, vous étiez sous l'obligation, de par la loi religieuse, de vous déclarer toujours, je suis lépreux, restez à l'écart, je suis lépreux, restez à l'écart. Quel conditionnement. Et la petite observe tout ça. Elle dit à sa maîtresse, si cet homme qui est mon maître était en Israël, mon pays, s'il était auprès du prophète, il parle d'Élisée. Elle parle d'Élisée plutôt. S'il était auprès du prophète qui est dans ma nation, cet homme le guérirait de sa maladie. Elle n'a pas dit peut-être, elle était convaincue que le prophète le guérirait. Ma question est celle de savoir quel a été le souvenir qu'il avait marqué à ce point pour que même dans son esclavage, elle avait toujours une image positive du Dieu de sa nation. Mon thème ce matin, c'est que n'oublie pas les dieux de tes origines. Vous voyez, quand j'ai commencé ce texte, nous avons des célébrités dans chaque passage. Quand on ouvre un passage, David c'est une célébrité, Salomon c'est une célébrité, Abraham une célébrité, Jacob une célébrité. Rarement on pense à certaines personnes qui presque on les lit en passant. Il y avait une jeune fille. La Bible n'a même pas pris le soin de la dignifier avec un nom. On ne sait même pas comment elle s'appelle. On sait seulement qu'elle est esclave. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que quand vous êtes dans une condition qui vous dépasse, votre condition efface votre identité. On commence à se référer à vous par rapport à ce qui vous arrive, au lieu de se référer à vous par rapport à qui vous êtes. Mais le plus important, c'est que les opinions des gens de l'extérieur vis-à-vis, l'opinion des gens vis-à-vis de vous, de l'extérieur, ne doit pas changer votre opinion vis-à-vis de Dieu de l'intérieur. Quelle que soit la dimension de sa souffrance, elle savait que le Dieu de ses pères, qui réside dans le prophète Élisée, est capable de guérir Naaman, alors que ce Dieu-là ne l'a pas délivré, elle, de l'esclavage, ni de l'enlèvement. Non, vous ne me comprenez pas. Cela montre que son amour et son admiration pour Dieu n'étaient pas conditionnés par le changement de sa propre condition. Et s'il était en Israël, quelqu'un d'autre aurait dit, mais pourquoi il ne t'a pas libéré, toi? Ça, c'est le lionine. On ne prêche pas Jésus seulement pour ce qu'il fait pour nous. C'est vrai qu'on on le déclare aussi. Mais on prêche Jésus pour ce qu'on connaît de lui. Elle est esclave. Vous savez c'est quoi une esclave? Une esclave ou un esclave, ce n'est pas pareil à un travailleur. Un travailleur a un salaire. Dans certains pays, les travailleurs ont des droits. L'esclave, c'est un bien privé. C'est une propriété. Elle n'est pas payée, elle peut travailler du matin jusqu'au soir. En fait, il existe par la volonté de son maître. Il peut même le vendre ou la vendre à qui il veut. C'est un bien. C'est pareil à une chèvre qu'on a. Malgré cela, il dit à sa maîtresse, s'il était en Israël, auprès du prophète, il est guéri. Mais c'est important ce que la Bible nous dit, une fille esclave. J'avais dit, mais c'était quoi son nom? Parce qu'elle a fait quelque chose de grand. On connaît Naaman. On parle de quand il est parti finalement pour rencontrer le prophète, j'avance très vite. On sait qu'il a rencontré Géasi. On sait qu'il a rencontré le prophète Élisée. Mais cette fille qui a aidé à connecter tout ça, pourquoi il n'a même pas de nom? Pourtant, c'est Dieu, c'est elle que Dieu utilise. Vous voyez, le problème avec nous les hommes, c'est qu'on se focalise sur ce qui brille. On se focalise sur ce qui impressionne, alors que Dieu se focalise sur ce dont lui a besoin. Cela dont lui a besoin. Dieu avait besoin de cette fille-là. C'est elle que le Seigneur a utilisée pour créer ce lien entre Naaman et le prophète. Parce qu'en fait, c'était à une période où les Syriens dominaient Israël. Vous verrez à la fin que cet incident va même changer les rapports des relations entre le prophète et la Syrie, et même plus tard, les rapports entre Israël et la Syrie, à la suite des temps. On n'a pas le temps pour ça aujourd'hui. Et j'ai compris une chose, mes amis, c'est que vous ne devez pas servir Dieu seulement quand vous êtes confortable. Et qu'on ne doit pas aimer Dieu par rapport à ce qu'il fait pour moi. On aime Dieu parce qu'on a reçu la révélation de qui il est. C'est comme ça que tous ceux qui ont marché avec Dieu ont marché aussi vers la mort. Cette chrétienté matérialistique n'a pas de futur. Parce qu'elle n'était pas dans une condition de confort matériel, mais malgré tout ça, elle avait témoigné du Dieu de ses origines. Sa condition était peut-être celle que telle qu'elle était. Mais son intérieur, ce qu'elle savait, n'avait pas changé. Quand on marche où on est avec Dieu, on ne marche pas par ce qu'on sent, on marche par ce qu'on sait. L'aveugle dans Jean chapitre 9, on lui dit, quand il parle, quand Jésus les guérit, on les retrouve après. Les pharisiens lui disent, non, cet homme-là c'est un pécheur, il ne peut pas te guérir. Il dit, qu'il soit pécheur ou pas, ce que moi je sais, c'est que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. C'est ce qu'on sait. Vous savez, le problème, c'est que si l'on veut marcher dans la foi par les sentiments, on ne pourra pas marcher avec Dieu. Parce que les sentiments sont comme une saison. Parfois c'est l'hiver, parfois c'est l'été, parfois c'est l'automne, parfois c'est le printemps. Ça change tout le temps. Et si ta foi n'est pas basée sur quelque chose de plus solide que ce que tu ressens, tu auras une foi vacillante. Sa foi, elle, était fondée sur ce qu'elle savait de Yahweh, le Dieu d'Israël. Elle a vu ce que Dieu était capable de faire. Même si maintenant, là, elle était dans un conditionnement qui n'était pas bon, elle était dans l'esclavage, cela ne pouvait pas effacer la réalité de ce qu'elle sait de Dieu. Elle devait certainement se dire, je suis là parce que Dieu l'a voulu. Et à partir d'elle, on voit Naaman aller pour chercher la guérison. En fait, mon objectif ce matin, c'est de t'aider à ne pas oublier les dieux de tes origines. Parce que tes conditions vont changer. Ne pense pas que parce que tu as jeûné un mois, tout va se régulariser. Certains d'entre vous, après un mois, Dieu t'introduit maintenant dans ta destinée. Or, la vision, elle est gratuite. Mais le voyage ne l'est pas. La vision que Dieu t'a donnée d'étape, tout le monde a le droit de rêver. Je rêve d'être ministre, je rêve d'être député, je rêve d'être un homme d'affaires. Ça, c'est gratuit. Mais le voyage qui lui mène a un prix à payer. Quand on prie, ce n'est pas pour que Dieu fasse pour toi. Quand on prie, c'est pour que Dieu fasse avec toi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai le potentiel qu'il faut. Je m'engage maintenant dans ce voyage. Ça veut dire que si tu avais peur, maintenant tu rentres dans la confidence. Tu marches maintenant prêt à affronter tout ce qui vient devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Après 30 jours de prière, je suis suffisamment occupé à faire face aux obstacles jusqu'à ce que j'arrive à ma destinée. Détrompe-toi si tu penses qu'après ceci tu vas t'asseoir et les choses vont tomber sur toi. Non, il y aura des retombées, oui. Mais ce ne sera pas la fin, mais le début. Alors, mais je prophétise sur toi. Il y aura des retombées, oui, tu vas voir la main de Dieu. Mais ça ne sera pas ça, ça sera l'introduction, ça sera une grâce d'introduction. Tu commences maintenant avec confiance, sachant que tu as un Dieu puissant derrière toi. Ce que cette fille voulait dire à la femme de Naaman, c'est que je connais un prophète qui parle à Yahweh. Rien ne lui résiste, si seulement il parle, il sera guéri. Imaginez le risque qu'il prend. Et l'esclave. Si jamais ça ne se passe pas. Quand on connaît son Dieu, on prend des risques fous. Ah, je ne m'entends pas. Elle est esclave. Techniquement, elle n'a aucun droit. C'est une chose. Mais elle prend le risque de déplacer tout un général. Pour aller. Pire encore. Le général, la femme va dire au mari, le mari va dire à l'homme. Voilà ce que cet esclave m'a dit. Parce qu'en fait, mes amis, quand on est désespéré, on va tout essayer. Tu n'as pas encore désespéré jusqu'à ce que tu désespères. Et quand on a désespéré, on essaye tout. Pourquoi vous pensez que certaines femmes épousent des hommes qu'elles n'aiment pas? Parce qu'ils ont désespéré. Mais il n'y a rien de... Je préfère être désespéré que de vivre le malheur d'être avec quelqu'un que je n'aime pas. Spécialement ici au Congo, où on a fait du célibat une maladie. Un Être célibataire n'est pas une condition médicale. En fait, c'est une joie. Réjouis-toi de cela jusqu'à ce que le moment arrive. Quand tu te maries, tu vas perdre une partie de ta liberté. Tout n'a pas de ton balai, on va te dire. Je ne peux pas me lever comme ça, faire ce que je veux. Je dois négocier. Je dois faire la plaidoirie. Maître, je dois négocier. Madame la juge, qu'est-ce que vous pensez? Si je gagne le poisson, les choses marchent. En anglais, on dit happy wife, happy life. Unhappy wife, that's a knife. C'est-à-dire, une femme heureuse, c'est une vie heureuse. Une femme qui n'est pas contente, c'est un couteau dans le dos. Et ça, qu'elle parle en langue ou pas. Elle va dire à son mari, le mari va, pire encore, le mari va chez le roi. Il dit, oh, on m'a dit qu'en Israël, on peut me guérir. La chose prend une autre tournée. Le roi écrit une lettre et l'envoie au roi d'Israël et dit, quand tu recevras cette lettre, guéris Naaman. Vous pouvez lire ça, je vous épargne les longues lectures. Quand tu recevras la lettre, guéris Naaman. Mais elle a commencé une petite histoire maintenant qui s'est traduit maintenant en un conflit entre États. Le roi qui dit non. Je crois qu'il appelle tous ses conseils et il dit, je crois que ce roi, il cherche une occasion de guerre. Parce qu'il a tout pris à l'Israël. Maintenant, il cherche une occasion pour vraiment nous envahir. Mais suis-je moi Dieu pour guérir quelqu'un de la lèpre? Mais celle qui a tout commencé, c'est une esclave. Vous remarquez le niveau du risque, comment ça monte. À ce point-ci, les choses ne marchent pas. À ce point, son futur, il n'y a que Dieu qui l'a entre sa main. À partir du moment où elle a pris les risques, la seule personne qui peut sortir cette fille de ces risques, c'est Dieu. Certains d'entre nous, mes amis, ni t'étais Dieu, vous ne verrez pas cette avancée. Tu ne peux rien faire dans la vie. À moins que tu sois quelqu'un qui prend des risques calculés. Elle était convaincue. Ça, c'est une dimension de foi qui n'est pas une foi attachée à des choses sentimentales. Parce qu'il n'y avait rien en elle-même qui pouvait lui rassurer que Dieu est avec elle. Sauf le souvenir de ce que Dieu était. Elle n'avait rien dans la condition-là. Elle vivait par l'énergie du souvenir qu'elle avait de Dieu. C'est-à-dire, le souvenir continuait à la pousser. La réalité était autre, mais le souvenir était différent. Elle connaissait Dieu. Et c'est même si je suis esclave, je connais ce Dieu-là. Ah, mais il ne t'a pas secouru, that's ok, c'est bon. Mais je sais qu'il va, je l'ai vu. Je sais que si cet homme part en Israël, il sera guéri. Maintenant, elle a mis le roi dans des problèmes. Elle qui pensait faire du bien, elle fait pleurer son roi. Ce qui veut dire, techniquement, si elle rentrait même là, elle sera dans le problème. C'est-à-dire, il y a des risques que nous prenons. Ça nous met dans une situation compliquée. Et de là où nous venons, nous ne pouvons plus rentrer. Là où nous partons, nous ne savons pas. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est de rester collé à Dieu. Place Naouti, je ne sais plus rentrer. Là où je pars, ce n'est pas clair. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que je sois clairement établi dans la volonté de Dieu. Tout voyage est un risque. Même quand tu as tout mis en place, c'est un risque. L'avion peut tomber, la voiture peut entrer en accident. Tout ce qui compte pour toi à l'instant là, c'est que Nzambe yokela ngambawa. Tu marches avec Dieu. Naaman va, et quand il arrive là, le Dieu de cette fille, oh le Dieu des oubliés, il n'a même pas un nom. Toi tu veux qu'on te connaisse, pour faire les choses dans l'œuvre de Dieu, tu veux qu'on te positionne. Je vais servir Dieu, mais le pasteur doit me mettre, tu veux paraître. Dieu parfois se sert effectivement bien de ceux qui ne paraissent pas. personne ne te voit, mais tu es clairement vu par lui. Il n'y a que toi qui le vois. On sert Dieu pour lui. On ne sert pas Dieu parce qu'on a besoin d'être vu. Elle n'avait rien à gagner, elle avait tout à perdre. Maintenant, toi, tu attends quoi pour te lancer? Tu attends quoi? Je n'ai pas l'habitude de ces choses, mais hier, il y a un frère qui m'a attiré de côté. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a appelé à prêcher à la télévision. Alors, il m'a dit que vous pouvez payer pour moi pour que j'aille à la télévision parce que j'ai un message. Je lui ai dit, mon frère, je suis convaincu que Dieu t'a appelé, mais ce n'est pas la télévision qui compte. Et puis même si j'avais l'argent, ma tête fonctionne de cette manière. On ne donne pas l'argent à des individus, on donne l'argent à des causes. Qu'est-ce qui me prouve que tu vas aller à la télé si je te donne l'argent? J'investis dans ce que je vois travailler. Parce que Dieu n'investit pas dans le promesse, il investit dans sa parole qui travaille. Même sa promesse, c'est sa parole qui travaille. J'ai compris que très souvent nous mourons pour qu'on nous voie. Mais tu sais, celui qui crée la visibilité, c'est Dieu. Et la visibilité, elle est dangereuse. Si elle tombe sur toi quand ton caractère n'est pas prêt, okokufa et pokobomabat. Il y a un temps. Dieu peut t'utiliser même dans ta condition actuelle. Elle est esclave. Dieu l'a utilisée. On parle aujourd'hui de la grande révélation de Jean, Apocalypse. Mais ce n'est pas Jean qui l'a écrit. C'est un esclave chrétien, frère, qui l'a envoyé avec lui en prison où il était, au nom de Procos. Est-ce que vous le connaissez même? Si tu peux lire l'Apocalypse, c'est parce que Procos a écrit. Mais tu ne le connais pas. C'est-à-dire, sans Procos, Dieu ne nous aurait pas donné l'Apocalypse, même si Jean le voulait, parce qu'il ne pouvait plus écrire. Il était fatigué. Voilà. Dieu vous a mis là. Hein? Travaillez avec joie. Parce que c'est lui que vous servez. Et c'est lui qui nous bénira. On a tendance à ne pas faire beaucoup parce que notre identité nous a été volée par notre condition. Tout d'un coup, tu n'es plus Marie. Tout d'un coup, tu n'es plus Jeanne. Tout d'un coup, tu n'es plus Pauline. Tu n'es plus Pierre. Tout d'un coup, on se réfère à toi par rapport à ta condition. Vous savez le frère là, qui est toujours ivre. Vous savez le frère là, qui a toujours un seul pantalon. Ta condition devient ton identité. Et tu sais quoi? Si toi, tu ne changes pas l'intérieur, même quand l'extérieur change, éventuellement l'intérieur influence toujours l'extérieur. Avec Dieu, c'est dedans qu'on commence. Finalement, Naaman va partir. C'est une histoire intéressante. Il va être guéri. Vous pensez que quand il rentre, même si la Bible ne nous dit rien, quand il rentre chez lui, il sait que c'est cette pauvre fille. La hauteur de ton risque déterminera la hauteur de ta grandeur. Même les gens du monde disent qu'ils ne risquent rien. Hein? Ça, c'est un risque. Tu peux dire que Dieu m'a parlé, mais c'est un risque que tu prends. Parce que si ça ne marche pas, aujourd'hui on te glorifie parce qu'on voit cela. Mais si ce n'était quelque chose, même par mégarde, même si ce n'était pas ta faute, et que rien n'arrivait, aujourd'hui ce serait un autre Maurice dont on parlait. Mais cela ne doit pas t'arrêter. C'est mieux d'essayer et d'échouer que de mourir avec les regrets de ne jamais avoir essayé. J'essaie, au moins je sais sur quoi j'ai échoué. Mais quand je meurs avec ma peur, je n'aurais jamais su ce que j'allais avoir. On a posé la question à un formateur en affaires. On dit, l'endroit le plus riche, la propriété la plus riche au monde, c'est où? On s'attendait à ce qu'ils disent, c'est Manhattan. l'endroit, en anglais on parle de real estate. Je ne sais pas comment traduire ça en français. L'endroit où il y a plus de, où les maisons coûtent cher, c'est où? On pensait qu'il allait dire Manhattan. Parce que tu es dans un coin comme Manhattan, là. J'ai vécu à New York pendant la première année de ma vie, ou deux. Un petit appartement d'une chambre et salon commence à 5 000 $. Si tu es à Manhattan, c'est pour les riches, c'est pas pour les pauvres. Les appartements commencent à 7 millions. Ah oui, hein? Malgré la beauté de Manhattan, là, à l'époque où j'étais là, il y avait près de 200 000 sans-abri qui dormaient dehors. Amérique. C'est pas Amérique, c'est Dieu. Quand vous avez Dieu, vous avez tout. Moi, je dis souvent aux jeunes, arrêtez ces histoires-là quand vous voyez quelqu'un qui vient à outil poteau, vous êtes impressionné. Il ne vous dépasse pas. Non. Et puis les Congolais, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Même ceux qui me suivent à la télé ou qui vont me suivre en Europe, arrêtez ces showbiz-là. On vient ici, on vient donner l'impression que le Congo est un enfer, que nous venons du ciel. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est Macné. Ce n'est pas tout le monde qui est Maurice. Non, soyez confident. Qu'ils viennent de partout, ils veulent venir parler avec confidence. Dieu vous a béni. On a posé la question, l'endroit le plus riche, il dit c'est le cimetière. Il dit, mais pourquoi? Il dit parce que il y a des entrepreneurs qui sont morts avec leur entrepreneuriat. Un corps qui dort dans un cercueil qui pouvait avoir produit des milliards de dollars et créer des emplois, mais par peur de prendre les risques qui sont dedans. Oh, s'il faut mourir, mourrez vide après avoir essayé. Ne craignez pas des conséquences. En fait, si vous, la peur, je vous ai dit, c'est une fois renversée. Mon Dieu. Elle a pris le risque. Je me dis, quand Naaman est revenu chez lui, même si on ne nous dit pas, quand Naaman est revenu, la peau comme un bébé. La première personne, je suis sûr, qui devait passer, n'était pas sa femme. Il avait sauté sur son esclave pour dire, merci ma fille, aujourd'hui tu es libre. J'ai 10 minutes avant de finir. Laissez-moi finir rapidement. Quand il est rentré chez lui, je pense que la condition de cette fille n'était pas la même. Quand tu prends un risque, ta récompense est à la hauteur de ton risque. Et un autre risque, c'est la capacité à attendre. Mais je risque, j'attends, Seigneur. Tu attends en planifiant, pas en dormant. Quelques années passées, j'ai trouvé un frère dans une permanence. Il m'a dit, pasteur, Dieu m'a dit que je vais avoir une compagnie d'aviation. C'est un ingénieur. Ça faisait 2 mois qu'il était en retraite. Il priait. Je dis, après ici, tu vas où? Il dit, non, je reste ici jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. J'ai dit, tu es fou. Si l'avion t'est tombé aujourd'hui, tu sais comment on parque un avion? Non. Tu sais comment on opère une compagnie d'aviation? Non. J'ai dit, mais 7 ans, utilise-les, éduque-toi pour que quand l'avion vient, tu es prêt à partir. L'opportunité qui rencontre le manque de préparation, c'est une opportunité ratée. Le retard dans l'accomplissement de la promesse te permet de te préparer pour être prêt à l'opportunité. Ce n'est pas une perte de temps. C'est toi qui détermine. Le temps n'attend personne. Toi, tu penses que Dieu ne fait pas. Non, Dieu t'attend. Tu n'es pas prêt pour ce que tu demandes. Je veux être entrepreneur. Tu ne seras pas entrepreneur en étant là rien qu'à prier. Tu pries et tu t'éduques. Même si tu n'as pas d'argent pour aller à l'université, tu peux aller sur Google, tu t'éduques toi-même. Même si tu deviens autodidacte, même les autodidactes, ce sont les autodidactes qui font plus. Certains d'entre vous, vous achetez des choses sur Alibaba. Mais c'est un autodidacte. Il n'a même pas un diplôme d'État. Mais il est l'un des hommes les plus riches au monde. Basé la caté dans l'inactivité. L'inactivité entraîne l'inattention. Et l'inattention entraîne les erreurs. vous êtes inactif, vous devenez inattentionné. Et quand vous n'êtes pas attentionné, vous commettez des erreurs. On a vu ça avec David et Bathsheba. La capacité à attendre est importante. Attends. Mais quand tu attends, attends dans la préparation. Forme-toi. Tu veux être un homme d'État. Commence à t'entraîner. J'ai dit à un jeune homme qui était l'autre, qui est venu me voir l'autre fois ici, j'ai dit, tu veux être politicien, prépare-toi maintenant. Tu peux faire les deux. Regarde les discours des grands politiciens. Pour que le jour où on te donne l'opportunité, que tu ne rates pas ça. Le jour où l'Amérique savait que Obama deviendrait président, c'était lors de son discours de 2005 à la convention républicaine. On lui a donné de parler. Il s'était préparé depuis qu'il était à l'école, depuis qu'il était enfant. À l'âge de 9 ans, il voulait être président des États-Unis. Et il s'est préparé toute sa vie. Quand il a eu l'occasion, tout le monde savait que ça, c'est un président à devenir. On n'attend pas dans le découragement. Quand tu ne vois pas encore, ça veut dire Dieu te dit, t'appelles sur le temps, mais préparé. Parce que quand l'opportunité arrive, les opportunités ne marchent qu'entre les mains de ceux qui sont préparés. Parce qu'aujourd'hui, si on te nomme PDG d'une entreprise, tu vas faire quoi? On n'apprend pas le travail au travail. Tu deviens PDG avant d'entrer. Ta vision conditionne tes choix. Et même le choix des amis avec lesquels tu t'entoures. Moi, je ne m'entoure jamais de médiocres. Un pasteur m'a dit, pasteur McNair, il y a un groupe de pasteurs, ils ont dit que toi, depuis que tu es venu, tu les appelles plus vraiment. Ils pensent que ce n'est pas bien. Toi, on sait que tu es un homme humble. Je suis humble, mais je ne suis pas médiocre. Avec un frère comme mon frère Maurice, le frère Christian, nous irons loin. Je connais des gens qui ont volé les choses des autres. Qui ont risqué ma réputation, j'ai dit au pasteur. Qui ont failli me mettre dans les difficultés avec les autorités congolaises ici. Parce qu'ils sont cupides. Mais des gens pareils, même si je vous aime de l'amour de Dieu, l'environnement n'a pas été comme je payais le prix pour être là. Quand tu attends, c'est important. Et alors quelque chose va se passer de plus rapidement. On voit aussi Géasi, nous sommes toujours au chapitre 5 du livre de 2 rois. Géasi va commettre une faute. Je vous montre que le Dieu que nous servons est formidable. Mais Dieu de notre origine, on l'oublie jamais. Cette fille a déclenché une série de choses. Et à cause de ce qu'elle a fait, l'homme est guéri. Mais avant que Naaman, après que Naaman soit guéri, Géasi va dire, parce que l'homme de Dieu avait refusé les gifts, les dons qu'il avait amenés. Géasi, son serviteur, le serviteur d'Élisée, va dire à Naaman, oh, l'homme de Dieu a dit, donne tout ce que tu avais amené là. Il est allé cacher cela. Tu sais, tu peux être à côté de l'onction, mais tu n'es pas tout à fait, ton caractère n'est pas correct. Mais Dieu t'utilise quand même. Mais ce que je veux vous montrer est important. Quand il pêche, la lèpre qui était sur Naaman tombe sur lui. On pense que sa vie était finie à ce point-là. Parce que la lèpre était tombée sur lui. Bizarrement, pasteur, ce que je ne comprends pas, c'est que nous sommes au chapitre 5. Quand quelqu'un a la lèpre, qu'est-ce qui se passe après? Il encore, c'est fini, tu es rejeté. Même dans la cité, on te rejette, n'est-ce pas? Mais accompagnez-moi dans 2 Rois chapitre 8, verset 5. 2 Rois chapitre 8, verset 5. Il y a quelque chose qui m'a choqué quand même. Je me suis dit, mais Dieu. Or, au moment précis où lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, commence au premier verset. Chapitre 8, verset 1. Élisée dit à la femme dont il avait ressusciter le fils. Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer là-bas où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. Allons-y. La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays de Philistins. On continue. À la fin de la 7e année, elle revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention afin de lui rendre sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec... Qu'est-ce qu'un lépreux fait en présence du roi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, entre la lèpre et cet incident, il y a eu un miracle qui s'est opéré dans la vie de Géasi. Parce qu'un lépreux ne pouvait pas être dans la présence du roi. Et ça, ce ne sont pas des choses qui se sont passées pendant des décennies. On est au chapitre 5, il a la lèpre. Au chapitre 8, il parle au roi. Suivez-moi. Il parla à Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait, raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'il disait. Ah, le même Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Nous rentrons au chapitre 7. Le chapitre 7, pour gagner le temps, nous dit que, oh, il y avait, peut-être, chapitre 7, nous rentrons au chapitre 7, pas verset 7. Nous rentrons au chapitre 7, verset 1 à 20, je ne lis pas les tout. Ici, on nous raconte l'histoire d'un homme, un lépreux, 4 lépreux qui ont sauvé Israël du siège de l'Assyrien, que Dieu a utilisé. Or, quand on fait l'exégèse des choses et l'étude approfondie de la Bible, les Juifs nous disent que ce lépreux et ses 3 enfants, c'était Géasi et ses 3 enfants. Après avoir, malgré qu'il était lépreux, il était lépreux de l'extérieur, mais son cœur était toujours droit devant Dieu. Il avait un cœur repentant. Parce que Dieu l'a utilisé pour opérer une délivrance en faveur d'Israël. Et en conséquence, quand Dieu délivre Israël, d'après la parole de l'homme de Dieu, il le délivre aussi de la lèpre. Pas que la lèpre était censée être éternelle. Le même Dieu qui avait maudit, c'est le même Dieu qui a retiré la malédiction. Un chapitre après, on le revoit réinstallé dans sa position comme serviteur. Et en même temps, on le voit devant le roi. Ça veut dire que même si aujourd'hui vous avez commis un péché, il n'y a pas un péché que Jésus-Christ ne peut pas restaurer, pardonner. Cet incident, c'est une histoire d'espoir. Parce qu'il n'y a pas qu'ici des enfants de Dieu, il y a aussi des rétrogradés qui sont ici. Je suis là pour vous dire, n'abandonne pas les dieux de tes origines. C'est-à-dire que il était tombé dans un instant, la malédiction l'a atteint, mais quand il y a eu l'opportunité d'être utilisé par Dieu, il a répondu avec son cœur. On nous dit qu'ils étaient tentés de tout prendre pour aller cacher. Après, ils se sont dit non, ce que nous faisons n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est un grand jour en Israël. Allons raconter. Ramenons la nouvelle à toute la ville. Même si on refusait de les admettre dans la cité, ils avaient toujours un bon cœur. À cause de la problème, si ton cœur n'est pas encore mauvais, tu es récupérable. Il était peut-être lépreux d'apparence, mais il n'était pas encore lépreux de cœur. Il connaissait le Dieu de son maître Élisée. Même dans sa condition, je pense qu'il regardait ses fils, il se regardait. Il dit, quand j'étais au service de mon Seigneur, je n'étais pas ça. Seigneur, on ne sait pas quelle prière il a faite. Mais quand l'opportunité s'est présentée de s'amender, parce qu'il était préparé toute sa vie à une opportunité, il a sauté dessus. Non seulement la parole de l'homme de Dieu s'est accomplie, Dieu a délivré la ville, mais lui aussi, il a guéri de la lèpre. Parce qu'on le voit finalement, pas seulement guéri, promu. Maintenant, il parle au roi. Quand tu es à côté de l'homme de Dieu, il y a des faveurs qui peuvent s'ouvrir à toi. Mais fais attention, ne confonds pas les lignes. Ce n'est pas ta grâce, c'est une grâce par dérogation. Je termine par un exemple. Je faisais une conférence à Kassavoub. Il y avait un jeune homme qui était toujours à côté de moi, que j'aimais beaucoup. Et il se présente un matin, il commence à engueuler le pasteur. Mais vous là, vous faites les choses comment? Le pasteur maintenant, il n'aime pas les choses comme ça. C'est pas comme ça qu'il travaille. Il engueulait le papa. Je me suis dit, ah, c'est ma faute. C'est un bon garçon, Mais il n'est pas prêt pour ce genre de choses. Ces pasteurs-là, ils ne sont pas venus vers moi. Ils sont venus vers mon Seigneur. Toi qui es à côté de moi, tu ne comprends pas que ni t'étais cette grâce-là par dérogation, tu ne serais même pas prêt à délasser les pieds de ces pasteurs-là. Si moi, je les respecte, qui es-tu pour m'imposer ton caractère à toi et salir mon image? J'ai dit, je t'aime bien, mais tu vas rester à l'écart. Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour aider quelqu'un à grandir. N'oublie jamais le Dieu de tes origines. Quelle que soit ta condition, toujours avoir dans ta tête que le même Dieu qui a été avec toi est le même Dieu qui est avec toi. Lève-nous, nous allons prier. Thank you, Jesus. Hallelujah. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Hallelujah. Lève ta main et dis au Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier le Dieu de mes origines. Quels que soient les changements des conditions autour de moi, aide-moi, Seigneur, à ne jamais oublier qui tu es. Aide-moi, Seigneur, que ma foi soit fondée sur ce que je sais de toi, pas ce que je sens autour de moi. Mets-toi à prier, mon ami. Mets-toi à prier. Mets-toi à prier. Jésus. Hallelujah. Oh Seigneur, notre Père. Jésus, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu as dit qu'avant qu'Abraham ne fût, tu es. Aujourd'hui, tu nous as aidés à comprendre que même quand personne ne tire attention à nous, toi, tu tires attention à nous. Nous ne te servons pas parce que nous sentons dans notre cœur que nous sommes contents, nous te servons parce que nous savons qui tu es. Et qu'à un moment donné, Seigneur, tu vas récompenser notre risque. Tu vas récompenser notre risque, Seigneur, quand nous le prenons en ayant foi en toi. Quand notre frère Maurice nous a dit, Dieu m'a dit, êtes-vous enfant de Dieu, venez prier. Seigneur, il a pris un risque en ton nom. Et à cause de ça, toi tu récompenses ce que toi tu as ordonné. Les hommes glorifient les résultats, mais toi tu es impressionné par la foi. Une foi qui n'est pas basée sur des sentiments, mais une foi qui est fondée sur ta parole, sur un amour inconditionné. Un amour vrai, le même amour qui a conduit les disciples au calvaire, à mourir aussi à la croix, à être crucifiés, à être décapités. Tu as travaillé dans leur vie, ils étaient prêts à payer le prix.